Chapitre 43. Les Parthes s'étaient aperçus de la retraite des Romains. Cependant, ils ne les avaient pas poursuivis. On remarque en général chez les barbares ce respect pour la nuit ou cette crainte dans les ténèbres. Les Cosaques, pendant la retraite de Russie, furent longtemps sans oser s'opposer à nos marches nocturnes. C'était le matin qu'ils reprenaient nos traces sur la neige et les suivaient jusqu'à ce qu'ils nous eussent rejoints. Il en fut de même pour Crassus. Dès le jour, les Parthes entrèrent dans le camp et massacrèrent à peu près 4000 blessés qu'on avait pu emporter. En outre, la cavalerie fit prisonnier un grand nombre de fuyards qui, perdus dans les ténèbres, vaguaient éparpillés dans la plaine. Le lieutenant Vargontéus s'était ainsi égaré avec 4 cohortes. Au jour, se voyant environné d'ennemis, la petite troupe se retira sur un tertre. Là, sans qu'elle fît un pas pour aller en avant ou en arrière, pour attaquer ou pour fuir, ces 4 cohortes furent massacrées. 20 hommes seulement se réunirent et, dans un accès de désespoir, se ruèrent l'épée nue sur les barbares. Ceux-ci, soit étonnement, soit admiration, les laissèrent passer. Les 20 hommes, sans presser le pas, sans se débander, continuèrent leur course vers Carès et arrivèrent à la ville sans avoir été autrement inquiétés. Crassus et le gros de l'armée avaient suivi les traces d'Ignatius et, vers 4 heures du matin, avaient rencontré les troupes que Coponius avait amenées au-devant des Romains. Coponius recueillit donc dans la ville et le général et les restes de son armée. Le surénat ignorait la route suivie par Crassus. Il croyait, sur un faux avis, que quelques fuyards seulement s'étaient retirés dans la ville et que Crassus était échappé avec le gros de l'armée. Devait-il laisser les Carènes tranquilles, ainsi que ceux qui s'étaient réfugiés derrière leurs murailles, ou se mettre à la poursuite de Crassus? Il fallait s'assurer, avant de prendre un parti, que Crassus n'était pas dans la ville. Il dépêcha donc vers Carès une espèce de parlementaire parlant ces 2 langues, le latin et le parthe. Cet homme s'approcha des murailles. Il devait appeler Crassus, et si Crassus n'était point à Carès, Cassius. Au qui-vive des sentinelles, il répondit donc qu'il était envoyé par le surénat et qu'il avait de sa part une mission pour le général romain. Crassus fut averti. On l'invitait à ne pas voir cet homme. On lui disait de se tenir en garde contre les ruses des Parthes, les plus fourbes de tous les barbares. Mais Crassus n'écouta rien. Ne sachant plus que devenir, il vit dans cette ouverture une chance de salut pour son armée. Crassus se rendit, malgré tout, sur les remparts. Cassius l'y suivit. L'envoyé du surénat leur dit que son maître voulait avoir avec Crassus une entrevue personnelle. Pendant les quelques paroles échangées entre eux à ce sujet, arrivèrent des cavaliers parthes qui connaissaient de vue Crassus et Cassius. Ils venaient s'assurer de l'identité du général romain et de son lieutenant. Convaincus que c'était Crassus et Cassius à qui ils avaient affaire, ils le dirent aux parlementaires. Alors celui-ci commença de s'ouvrir, disant que le surénat était disposé à négocier, à accorder aux Romains la vie sauve, à condition qu'il deviendrait allié du roi Hérodès, signerait avec lui un traité d'alliance et quitterait la Mésopotamie. Le général, ajouta le parlementaire, croit ce parti plus avantageux aux Romains et aux Parthes que d'en venir aux dernières extrémités. Pendant tout ce temps, c'était Cassius qui avait été interpellé et qui avait répondu. Arrivé à ce point de l'entrevue, il se retourna vers le général pour prendre ses ordres. Crassus fit signe d'accepter. Cassius accepta donc et demanda quel serait le lieu et l'heure de l'entrevue. Le parlementaire dit que réponse serait faite à ces 2 questions dans la journée. Puis il tourna bride pour rejoindre le surénat et lui annoncer que Crassus et Cassius n'étaient pas échappés, mais étaient bien en Carès. Les Carènes étaient occupées violemment par les Romains et tout entiers à leurs ennemis. Les Parthes pouvaient donc espérer qu'aucun des Romains se trouvant dans la ville ne leur échapperait. Aussi le surénat ne prit-il plus la peine de dissimuler. Dès le lendemain, au point du jour, il était avec ses Parthes devant Carès et ses Parthes accablaient les Romains d'injures. « Si vous voulez obtenir une capitulation, leur criait-il, « si vous tenez à la vie comme vous nous l'avez prouvé en fuyant devant nous, Vous n'aurez cette capitulation et ne sauverez votre vie qu'en nous livrant Crassus et Cassius enchaînés. » Les Romains écoutaient ces injures avec consternation. Ils sentaient qu'ils ne pouvaient se fier aux habitants de la ville. Ils comprenaient que chaque pavé couvrait une trahison. Crassus voulait leur rendre quelque espoir. Il leur parlait d'Artabase et de ce secours d'Arméniens tant méprisé au jour de la prospérité et si vivement apprécié depuis les revers. Mais les Romains secouaient à bon droit la tête, disant qu'ils ne devaient plus compter que sur eux-mêmes et que leur seul salut était dans la retraite. En conséquence, ils engageaient Crassus à profiter de la nuit, à quitter la ville et à faire le plus de chemin possible pendant l'obscurité. Crassus était tout disposé à se rendre au désir de ses soldats. Seulement, pour réussir, ce projet avait besoin de rester secret, chacun étant convaincu que, si un seul habitant de la ville en était instruit, 10 minutes après, le surrénal le saurait à son tour. Cependant, il fallait un guide. Crassus voulut le choisir lui-même. Il avait la main si heureuse. Il tomba sur un nommé Andromachus, qui n'était rien autre chose qu'un espion des Parthes. Crassus était bien décidément dévoué aux dieux infernaux. Les Parthes furent donc informés des moindres détails de la fuite de Crassus. Aussi ne s'émurent-ils point. Les Romains sortirent de Carrhès sans qu'un seul bruit, sortis du camp des Parthes, leur fit craindre que leur retraite fût connue. Il est vrai que le surrénat, sachant que son ennemi avait pour guide Andromachus, était toujours certain de le rejoindre. En effet, celui-ci guidait les Romains par des routes qui semblaient les éloigner de la ville et qui, cependant, les maintenaient dans les environs. Il finit par détourner l'armée du chemin, l'engagea dans des marais et des fondrières, si bien qu'à ses marches et à ses contre-marches, à l'aspect du terrain, au sentiment instinctif qu'ils éprouvaient d'être plus près du danger que jamais, beaucoup déclarèrent qu'Andromachus était un traître et refusèrent de le suivre. Cassius, pour son compte, se prononça formellement, accusant Andromachus qu'il eût tué si Crassus ne l'eût pris sous sa protection. Mais alors, laissant Crassus à son aveuglement, Cassius se sépara de lui avec 500 cavaliers à peu près et retourna vers Carrhès. Là, il prit des guides arabes, et comme ceux-ci lui disaient qu'il lui conseillait d'attendre pour se mettre en route que la lune eût dépassé le scorpion, « Je ne m'inquiète pas du scorpion, dit-il, mais du Sagittaire. En route, en route !» Et il se mit à chevaucher dans la direction de la Syrie. Une autre fraction de l'armée se sépara aussi de Crassus. Celle-là, conduite par des guides fidèles, parvint à une chaîne de montagnes qui s'étend à quelque distance du Tigre et qu'on appelle les Sinaques. Ils étaient 1000 environ, sous les ordres d'un lieutenant qui était connu d'eux par son courage. Ils avaient donc toute confiance en lui. Ce lieutenant se nommait Octavius. Quant à Crassus, son mauvais génie ne l'avait point abandonné. D'abord, ce mauvais génie s'était appelé Ariamnès. Maintenant, il s'appelait Andromachus. Le jour surprit Crassus, engagé dans les marais et les fondrières. Il commença de comprendre qu'il y avait trahison. Le glaive sur la gorge, il ordonna à Andromachus de le conduire sur un meilleur terrain. Force fut à celui-ci d'obéir. Après bien des fatigues, il ramena l'armée sur le grand chemin. Crassus avait encore avec lui 4 ou 5 cohortes, 100 de cavaliers et 5 licteurs. À peine ce qui lui restait d'hommes était-il, grâce à l'amélioration du terrain, rallié autour de lui, que l'ennemi parut. Crassus gagna une crête de montagne, et de là, à une demi-lieue de lui, il vit une autre colline couverte d'hommes dont les armes étincelaient au soleil levant. Ceux qui occupaient cette colline étaient Octavius et ses soldats. C'était un dernier espoir. On allait donc pouvoir se soutenir l'un l'autre. Les Parthes se dirigèrent vers Crassus comme s'ils eussent su que là était le général en chef et ils commencèrent l'attaque.